Wake up, Ismaël Dribagné sur la station la plus écoutée sur le plan international, Internet numéro 1. Wake up le show de 8h à midi du lundi au vendredi et de 14h à 18h pour ce qui est de l'Europe, toujours selon l'endroit où vous vous situez. C'est une rencontre, je peux dire exceptionnelle, oui. Au bout du fil, on a Claude Reichmann qui écoute, qui est patient. D'ailleurs, on a dépassé de 18 minutes le temps qu'on devait justement lui lâcher un coup de fil. J'espère qu'il n'est pas offusqué de cela. Enfin, à lui de nous le dire. Le FM et Internet se rencontrent d'une certaine façon pour la première fois. Bonjour, Monsieur Reichmann.
Oui, bonjour.
J'aimerais savoir, parlez-nous de vous un peu. Dites-nous qui est Claude Reichmann. Vous êtes né quand? Vous êtes né à quel endroit? Je veux vous connaître un peu plus, s'il vous plaît.
Eh bien, je suis né en 1937, donc ça fait pas mal d'années, à Metz, en Moselle, donc en Lorraine. Et j'ai fait une carrière médicale pendant de longues années et en même temps une carrière dans le syndicalisme médical. Puis je me suis tourné vers des activités qui pour l'essentiel consistaient à militer contre le monopole de la sécurité sociale, qui est un outil de destruction de la société française.
Ah.
Et depuis, ou par la suite, j'ai pris une décision qui a consisté à créer la Révolution bleue, laquelle a pour objectif, qui se tient d'ailleurs en trois points, premièrement d'obtenir que s'arrête la chienlit, car vous le savez sans doute, mais la France est vraiment le théâtre d'une chienlit permanente, c'est-à-dire d'un désordre permanent, de baisser le plus possible les charges et les cotisations sociales et les impôts, et de remplacer la caste politicienne qui est totalement incapable et qui s'avère de plus en plus incapable au point d'ailleurs que les Français ne veulent même plus entendre parler d'eux. Voilà, de manière assez succincte, résumer mon parcours.
Voilà.
Mais c'était le parcours, je dirais, de quelqu'un qui a été libre pendant toute sa vie, au risque d'ailleurs d'avoir quelques difficultés.
C'est au risque d'avoir quelques difficultés, mais pourquoi, selon vous, des difficultés qui se sont parsemées autour dans votre passage, dans votre vie, pourquoi? Dites-nous.
Eh bien, parce que la France n'est pas un pays qui accepte la liberté, contrairement à la réputation qui lui est faite.
Okay.
Vous savez, la fameuse trilogie de sa devise, liberté, égalité, fraternité.
Oui.
Dès le premier mot, liberté, on trébuche, car en France, il n'est de vérité que dans l'État. Et les citoyens sont tous plus ou moins craintif face à l'État. Il est donc très difficile de défendre la liberté, car ça a été l'essentiel de mon combat, dans un tel contexte, surtout que ce contexte s'est beaucoup durci au fil des années. Au cours des 30 dernières années, on a vu la prise de pouvoir en France par la technocratie, qui petit à petit a évincé tout ce qu'il pouvait y avoir de libre dans la société française, et qui l'a réduite à sa merci, avec évidemment la conséquence que les Français sont devenus de moins en moins entreprenants, de plus en plus assistés, et que les technocrates ne maîtrisent plus rien finalement, et que la situation en France est devenue explosive de la vie générale. Surtout, vous pouvez interroger n'importe quel journaliste compétent, il vous indiquera, j'en avais même un tout à l'heure au téléphone il y a quelques minutes, qui me disait tout ça va finir dans la violence.
Quelle station, ou enfin quel journaliste, il travaillait pour qui?
Il travaille pour un grand hebdomadaire français. Je ne peux pas citer son nom parce que c'était d'une conversation privée.
Ok.
Je ne voudrais pas l'engager par des propos qu'il préférera tenir lui-même, mais il n'est pas isolé. D'ailleurs, vous savez, il y a actuellement en France un curieux phénomène qui consiste à ne plus avoir la moindre confiance dans les candidats principaux. Là, ce matin, dans Le Figaro, qui est un des journaux, des quotidiens français, il y avait un sondage qui indiquait que 71% des Français trouver que la campagne était très ennuyeuse et ne correspondait pas à leur attente. Et donc, c'est quand même un chiffre accablant, parce qu'une campagne électorale, c'est destiné à quoi? Ben, c'est destiné à faire en sorte que les gens fassent un choix. Et ce choix, les Français estiment ne pas l'avoir, parce que tout simplement, c'est un choix tronqué. Vous avez face à face les deux candidats principaux qui sont Madame Ségolène Royal, qui connaît bien le Canada, puisque récemment, elle s'est illustrée par une conversation fausse avec Monsieur Charest.
Oui, tout à fait.
J'espère que vous êtes bien Monsieur Trépanier.
Oui, je suis Monsieur Trépanier.
Ah bon, très bien, parce que sinon, vous m'aurez piégé.
Oui, tout à fait, voilà. Oui.
Et donc, Monsieur Sarkozy, qui lui parle toujours de rupture, mais qui, en fait, est depuis 30 ans dans la politique, il a, je dirais, mangé à tous les râteliers de la politique française, Et donc les Français sentent bien que face à la gravité des problèmes auxquels ils doivent faire face, les deux candidats principaux n'apportent pas de solution. Et cette situation est extrêmement malsaine et risque de se traduire par un grand désordre et par des surprises au moment où l'élection va se faire.
OK. Et là, en ce moment, vous croyez pas que c'est normal que les gens de votre côté trouvent ça ennuyant comme type de campagne? Je sais pas.
Ah, si. Moi, personnellement, je la trouve extrêmement ennuyeuse. Elle est médiocre à tout point de vue. Elle n'aborde aucun des problèmes. Vous savez, je ne sais pas si au Canada, enfin, je connais quand même un peu la situation au Canada, mais je n'y vis pas et donc il m'est difficile de juger, mais il me semble quand même qu'il y a une certaine liberté d'expression. En France, les médias contrôlent tout. Et alors la vie politique et la vie médiatique, la vraie vie médiatique, s'est réfugiée sur Internet et sur des médias alternatifs.
Tout à fait.
C'est-à-dire que les grands médias continuent à faire leurs petites cérémonies quotidiennes. Alors vous avez Monsieur Intel, Monsieur Tartampion, Monsieur Machin, Monsieur Truc, qui disent la même chose. Vous savez, il y avait dans le temps une chanson, enfin elle existe toujours d'ailleurs, c'était une chanson que chantait Yves Montand, qui est très connue, qui s'appelle « À Paris ».
Oui.
Et qui était une chanson de Francis Lemarque. Et dans cette chanson, on disait « À Paris, au café, on voit n'importe qui fait n'importe quoi, qui est là depuis le matin, qui parle avec ses mains. » Ben, c'est ça la politique française. Vous avez des gens qui sont assis, qui parlent toute la journée, qui parlent avec leurs mains ou avec ce qu'ils ont à leur portée, et puis qui ne disent rien. Ça n'a strictement aucun intérêt, ça ne regarde absolument pas les Français.
Radio Courtoisie.
C'est la raison pour laquelle la Révolution Bleue, que j'ai créée avec un certain nombre d'amis, a beaucoup de succès, parce que les gens se rendent bien compte que si on ne donne pas un grand coup de pied dans la fourmilière, les choses vont aller de mal en pis, il n'y aura pas de solution.
100% d'accord avec vous, M. Reichmann. Parlez-nous un peu de Radio Courtoisie. Vous avez quand même animé là un certain temps, à peu près.
Oui, écoutez, j'ai animé pendant 16 ans une émission.
Et oui.
Il y avait un certain succès quand même. Et depuis quelques mois,
attendez,
il y a une crise de succession à Radio Courtoisie. C'est-à-dire que la personne qui dirigeait Radio Courtoisie, Jean Ferré, avait fait de cette radio celle qui accueillait toutes les droites et tous les talents, et il avait en particulier, lui, le talent d'accommoder les différents patrons d'émissions, qui étaient d'opinion tous de droite, bien sûr, mais très variés quand même. Et pendant les 16 ans où j'ai dirigé une émission, jamais je n'ai eu le moindre conseil ni la moindre observation de Jean Ferré. Et voilà que quelqu'un qui est un technocrate, un certain Delesquin, qui doit être bien connu essentiellement de sa concierge et de son épicière, c'est imaginé pouvoir prendre le pouvoir. Alors, ce type ignore tout de ce qu'est une radio. Il sait aussi bien faire une émission qu'un balayeur dans la rue sait dire la messe, quoi. C'est à peu près le style, quoi.
Oui, tout à fait.
Et donc, il exclut. Alors, ce qu'il sait faire, c'est qu'il exclut dès que quelqu'un dit quelque chose qui lui déplaît, il l'exclut. Alors, c'est devenu une véritable foire d'empoigne. Et que j'ai quitté d'ailleurs avec grand plaisir parce que je déteste travailler dans ces conditions.
Attendez un instant, monsieur Reichmann. Vous avez quitté et on vous a pas démis de vos fonctions.
Si, on m'a démis de mes fonctions.
D'accord.
Mais,
okay.
je ne fais rien pour les recouvrer.
Okay.
Parce que je ne veux pas travailler dans un média. Si la radio change de direction et revient, alors là j'y retournerai. Mais je ne veux pas revenir dans un média qui fonctionne avec des gardes du corps. Parce qu'il faut quand même que vous sachiez que ce personnage est entouré en permanence ou presque de vigiles, c'est dire à quel point il a confiance en lui, et donc c'est une situation intolérable, et d'ailleurs elle est d'autant plus intolérable, et c'est une grande déception pour moi, c'est de constater que la majorité des directeurs d'émissions ont accepté cette situation. Alors ils l'acceptent en grognant un peu comme ça, mais ils ont tellement peur de perdre leur émission que finalement ils l'acceptent. Et à mon avis, ils se sont déshonorés, parce que imaginez seulement ce qui se passerait si dans la moindre des rédactions françaises, ou canadiennes à plus forte raison, quelqu'un qui se prétend le directeur et qui en réalité ne l'est pas, car il a usurpé cette fonction, et nous en avons toutes les preuves, quelqu'un arrivait avec des gardes du corps et disait « voilà ce qu'on va faire et on fera pas autrement ben ». Vous auriez une grève générale aussitôt.
Oui.
Et donc la radio s'arrêterait et le type serait forcément obligé de s'en aller. Et là, à Radio Courtoisie, ça a été vraiment la grande déception que nous pouvons éprouver, que les auditeurs peuvent éprouver. Les gens se sont couchés. Et la position couchée n'est pas vraiment celle qui correspond à un combattant.
Et dites-moi, là, M. Reichmann, je sens quand même un goût amer que vous avez dans la bouche. Là, d'avoir...
Non, c'est de la critique. Non, je ne suis pas quelqu'un qui ressent de l'amertume. Vous savez, je suis un homme d'action et donc l'amertume est un sentiment que je n'éprouve pas.
Parfait.
Ni la haine, d'ailleurs. Je n'éprouve que les sentiments qui peuvent aider à l'action. Et là, quand je condamne vivement l'attitude, bien sûr, de ce personnage et celle de mes collègues, mes anciens collègues directeurs des missions qui ont accepté ces fonctions, eh bien, je me dis que finalement, je suis dans la ligne que j'ai toujours défendue, à savoir la liberté avant tout, et la liberté et la dignité, parce que c'est absolument essentiel. Et, ce qui est assez choquant, voyez-vous, c'est que quand on fait de la radio, il y a beaucoup de gens qui vous font confiance, parce qu'on vous écoute,
c'est vrai.
Et vous le savez aussi bien que moi, la radio est ce que l'on appelle un média chaud.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un média où il y a une grande communication entre les personnes qui parlent et celles qui écoutent. À la différence de la télévision qui est considérée comme un média froid, c'est-à-dire un média dans lequel les contacts restent extérieurs. Ça, c'est la théorie bien connue de McLuhan. Eh bien, le degré de confiance que j'ai senti chez les auditeurs envers ma modeste personne, tout aussi bien que celle de mes collègues d'ailleurs, est telle que j'estimais n'avoir absolument pas le droit de leur cacher ce qui se passait. Et la volonté de ceux qui avaient pris la direction de la radio, c'était au contraire qu'on ne dise rien pour ne gêner personne. En réalité, pour ne pas les gêner eux. Eh bien, moi j'ai parlé, et tant qu'il me restera un souffle de vie, je parlerai, parce que j'estime que c'est à cela qu'un homme qui a des responsabilités doit servir.
Monsieur Reichmann, la radio pour vous, j'aimerais qu'on puisse s'entendre sur un même point. Est-ce que c'est un média qui est plus véridique, qui est plus véritable que la télévision?
Ah, je crois totalement. Enfin, la télévision est évidemment un média puissant et très intéressant,
oui,
qui permet de voir certaines choses. Mais la radio, vous savez, c'est un média qui a une puissance incomparable. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 1968 en France. Il y a eu ces fameux événements, la fameuse révolution de mai 68.
Oui.
Et lorsque la situation était devenue insaisissable, le général de Gaulle s'en va pour Baden en Allemagne, il revient finalement alors qu'on croyait qu'il avait définitivement quitté la France, et il s'adresse aux Français pour mettre un terme à la chienlit, et où le fait-il ? À la radio. Et peu après, 1 million de Français sont sur les Champs-Élysées. La radio est un outil extraordinairement puissant, infiniment plus puissant que la télévision. Parce que la télévision, vous êtes assis, vous regardez, vous n'êtes qu'un spectateur. Et il y a un mot que vous connaissez peut-être qui est vraiment très très amusant, mais qui est vrai. Un jour, une personne que je connais venait de passer à la télévision.
Okay.
Et cette personne habitait en province et reprenait son train. Et il y a quelqu'un sur le quai de la gare, il y a une personne qui vient vers lui et qui lui dit « Monsieur, excusez-moi, c'est bien moi qui vous ai vu à la télévision. » C'est pas vous que j'ai vu, c'est bien moi qui vous ai vu. Le type était totalement dépossédé de lui-même face à l'image de télévision.
Incroyable.
Et ça ne dispose pas à être un acteur. Pour être un acteur, il faut être disponible. Et puis, vous le savez aussi, la radio est un média qui permet de rêver. D'abord, vous rêvez en imaginant la tête de ceux qui vous parlent. Ça n'est jamais... on se trompe très souvent. Ben, je sais que chaque fois que nous faisions à la radio... chaque année, donc deux fois par an, des réunions, et notamment une fête du livre au cours de laquelle les auditeurs venaient voir les animateurs de la radio et se faire signer les livres que les auteurs reçus étaient venus présenter. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui venaient vers nous et qui disaient « Ah, oh, comme je suis content de vous voir. Ah, je vous imaginais comme ça ou je ne vous imaginais pas comme ça. Enfin, » Bon, en général, je leur demandais, ouais, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus, parce que sinon, il y a une chaise, asseyez-vous, là.
Oui, c'est ça. Exact.
Mais c'était pas sympathique, et là, il y avait... Et moi, ça me rappelle mon enfance, je suis devenu passionné de radio quand j'étais tout gamin, il y avait un grand poste chez moi, comme chez tout le monde, j'écoutais la radio, j'adorais la radio, et j'ai vraiment appris beaucoup en écoutant les émissions de l'époque. Il y avait en particulier une émission, vous êtes beaucoup trop jeune pour l'avoir vue.
Probablement.
Je ne me souviens plus d'ailleurs exactement comment elle s'appelait, mais je me souviens très bien d'un des personnages, c'était un comédien d'ailleurs qui était un des animateurs de la radio, et il jouait un rôle qui s'appelait, un personnage qui s'appelait le régisseur Albert. Alors, le régisseur Albert, c'était le régisseur de l'émission, bien sûr. C'est le type qui, dans les coulisses, s'affairait pour que tout marche bien. Et le régisseur Albert était un personnage d'un certain âge, qui avait des cheveux gris, enfin, qui était teint, bien sûr, car le comédien, lui, n'avait que 30 ans. Et alors, il y avait un numéro extraordinaire. L'animateur de l'émission disait toujours « On a eu très peur ». Et pourquoi avait-on peur? C'est parce que le régisseur Albert était toujours en colère et menaçait de ne pas venir. Et lorsque l'animateur, qui s'appelait Robert Beauvais, disait « On a eu très peur », la salle hurlait de rire, littéralement, et à ce moment-là arrivait le régisseur Albert, qui parfois faisait semblant d'être de bonne humeur. Il disait « Bonjour, messieurs, dames ». Et parfois, il explosait. Enfin, c'était très, très amusant. Bon, c'est un vieux truc qui est bien connu, c'est le clown blanc et l'Auguste. Il y a pas tellement, vous savez, de numéros au monde, hein. De même qu'il y a en tout et pour tout, paraît-il, au monde, sept types de jeux.
Okay.
C'est Pierre Sabac qui m'avait expliqué ça un jour. C'est un homme qui réalisait l'émission au théâtre Ce Soir, entre autres, et qui a été le créateur des premiers journaux de la télévision française. Il m'avait posé cette question un jour: combien y a-t-il de jeux? Alors moi, je dis 300, 500. Il dit non, il y en a sept. Il y a sept types de jeux, en tout et pour tout. Tout le reste, ce sont des variantes.
Okay.
Et vous avez en outre un autre élément très amusant. Est-ce que vous avez entendu aujourd'hui l'information selon laquelle à Moscou, les automobilistes, face aux embarras de la circulation, se mettent des gyrophares?
Des gyrophares
auxquels ils n'ont pas droit. Eh bien, figurez-vous qu'il y a, je ne sais pas combien, une petite cinquantaine d'années peut-être, en France, il y avait un sketch que jouaient Poiret et Serroux. Vous avez entendu parler de ces comédiens, peut-être. Et donc, eux aussi, ils faisaient un numéro de clown blanc et d'Auguste. Et alors, face aux embarras de Paris, qui d'ailleurs avait été décrit par Boileau il y a plusieurs siècles aussi, l'un d'eux, Serrault, disait « Ah ben moi, vous savez, j'ai trouvé la solution. Voilà. J'ai pris une voiture de pompier. » Alors, je dis « Ah bon ?» Et oui, le seul inconvénient, c'est que quand il y a le feu, faut y aller.
j'ai déjà entendu.
Voilà.
Ça me rappelle.
Ben, à Moscou, c'est la même chose. rien ne se crée, rien ne se perd.
Tout à fait. J'aimerais aborder le sujet Radio Courtoisie sur le plan auditoire. Est-ce que votre émission... Et quel était le titre de votre émission, M. Rachman?
Le Libre Journal de Claude Rachman.
OK. Vous aviez des sondages. Est-ce que... à quoi ressemblait votre auditoire? Est-ce que c'était davantage, je sais pas moi, est-ce que c'était 18-34 ans? Est-ce que c'était 35 et plus? Ça ressemblait à quoi? Et en frais d'auditoire, vous aviez combien à peu près qui vous écoutaient?
Ben écoutez, d'après les sondages et les estimations, l'émission qui était d'ailleurs rediffusée deux fois, c'est-à-dire en direct le soir de 18h à 21h, puis la nuit de 2h à 5h, le lendemain matin de 7h30 à 10h30, avait entre 800 000 et 1 million d'auditeurs.
Okay.
Alors, qui étaient répartis d'ailleurs dans des tranches d'âge assez différentes, parce que vous aviez une base d'auditeurs qui étaient des personnes relativement âgées, parce que ce sont des gens très attachés à la culture française et qui ne se retrouvaient plus dans les médias actuels où on parle un français approximatif et où on parle de choses sans intérêt.
Okay.
Vous aviez une très très grosse clientèle d'automobilistes, c'est des gens qui rentraient de leur travail vers 18-19 heures, ou bien qui s'y rendaient le lendemain matin. Et vous avez, pour prendre un exemple, les chauffeurs de taxi étaient tous, beaucoup d'entre eux, des auditeurs très fidèles de Radio Courtoisie. Et je me souviens d'un soir où j'allais prendre un train à la gare de l'Est. Bon, je hèle un taxi, il me demande si j'avais un parcours de préférence. Bon, je lui dis que je lui faisais confiance, etc. Et tout d'un coup, il s'interrompt et me dit « Je connais cette voix, vous êtes Claude Rachman. »
C'est bon.
Alors je dis « Écoutez, je suis ravi que vous me reconnaissiez. » Et
bon.
Cet homme n'a jamais accepté que je le paye en plus.
Oh.
Alors bon, j'étais très gêné parce que je déteste que les gens travaillent pour rien.
Mais on peut le prendre quand ça passe. On peut le prendre quand ça passe.
Pardon?
On peut le prendre quand ça passe, je sais pas moi.
Oui, bien sûr. Non, mais là, bon, j'ai accepté volontiers parce que il en avait fait un point d'honneur. Non, mais c'est vous dire à quel degré de popularité. J'ai un de mes amis qui est professeur de droit à Paris, qui est un des plus grands juristes français, et qui un jour parlait avec son chauffeur de taxi de la sécurité sociale. Et le chauffeur de taxi lui a dit « Ah, Youté, là vous devriez écouter Claude Rachman sur Radio Courtoisie, vous en apprendra des choses. » Donc le type est le plus grand spécialiste français de ses problèmes. C'est lui qui me l'a raconté d'ailleurs. Donc vous voyez, on avait un auditoire assez varié, et de plus en plus de jeunes. En tout cas, mon émission semblait attirer de plus en plus de jeunes pour une raison simple, c'est que les jeunes se rendent bien compte, enfin les plus jeunes en tout cas, que la société française ne leur fait pas de place. La société française est une société de vieux. Alors je n'ai rien contre les vieux, évidemment, mais le problème, c'est que quand une société se déséquilibre au détriment des jeunes, parce que la plupart des avantages vont aux personnes âgées, il y a un véritable problème qui se crée. Et comme dans cette émission, j'avais l'habitude de dénoncer ce genre de blocage et d'expliquer pourquoi ils étaient mauvais et ce qu'il fallait faire pour les libérer, il y a une clientèle jeune qui s'est créée, qui s'est fidélisée de plus en plus. Et donc, je pense, sans vouloir l'affirmer, parce que ce que je vous dis n'est pas scientifique, mais vécu, que finalement, mon auditoire était assez proche de la composition de la société française.
Mais là, est-ce que ça vous fait quelque chose? Est-ce que vous aimeriez retourner faire de la radio? Est-ce que ça vous manque? Peut-être un peu, je ne sais pas, après 16 ans, M. Rachman?
Mais franchement, pas du tout.
Pas du tout?
Après 16 ans d'émission, vous savez que... Vous êtes un homme de radio également et Vous savez à quel point faire une émission demande du temps et du travail. Bon, quand je présentais des ouvrages, souvent des ouvrages difficiles d'auteurs, car je faisais beaucoup d'économie, beaucoup de social, de politique, d'histoire, bon, j'avais parfois un livre ou deux livres à lire et il fallait que je les connaisse suffisamment bien pour ne pas avoir besoin de recourir à des fiches, parce que dans un dialogue radiophonique, vous avez intérêt à bien connaître le sujet si vous voulez être réactif. Et donc ça a été pour moi à la fois un grand plaisir, bien sûr, mais aussi une énorme tâche pendant 16 ans, et 16 ans sans interruption. Même, bon, l'été, il y avait une interruption, mais on avait enregistré une ou deux émissions. Et donc, très franchement, vous savez, ça, quand arrive le mardi, je n'y pense même pas, puisque mon émission avait lieu le mardi soir en direct.
Ok.
Et vraiment, je n'y pense pas, et ça n'est pas du tout par un sentiment négatif, mais
non.
Bon, je suis passé à autre chose, quoi.
Ok. Non, mais c'est parce que je me disais, si jamais on arrivait et on proposait à Claude Reichmann une émission qui oui. ressemblait un peu à celle que vous faisiez sur Radio Courtoisie, ou carrément autre chose, un autre contexte qui, je sais pas, qui vous tenterait.
Je le ferais plus volontiers.
Vous, pardon?
Parce que refaire la même chose, ça ne m'amuserait pas beaucoup, même si j'ai actuellement...
Est-ce que tout va bien de votre côté, Monsieur Reichmann?
Pardon?
Est-ce que tout va bien de votre côté? On vient d'entendre la...
Ah non, c'est pas pour moi. Hein. Non, c'est, rassurez-vous, c'est certainement, il vient d'embarquer Chirac qui a assez servi comme ça.
Non. Alors, dans le fond, sur un autre registre, un autre style,
oui.
Vous seriez prêt peut-être? Je sais pas.
Oui, ben écoutez, moi je suis ouvert à toutes les aventures parce que vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai d'autres cordes à mon arc. J'ai été auteur dramatique dans une autre vie. J'ai écrit des pièces de théâtre qui ont été jouées au théâtre et à la télévision.
Okay.
Je suis écrivain également et bon, c'est vrai que la politique sociale m'ont beaucoup accaparé pendant toutes ces années. Mais bon, je ne refuse pas d'autres projets. Disons que pour l'instant, je me bats avec mes amis pour rétablir à Radio Courtoisie une situation acceptable, c'est-à-dire qu'il y a eu une usurpation qui est intolérable au regard de la confiance que les gens nous faisaient. Bon, nous sommes en train de lutter pour ramener tout cela dans une bonne condition, mais je verrai après, je prendrai ma décision librement. Et
oui.
Je pense que... Enfin, il y a une chose en tout cas qui est certaine, c'est que j'ai encore des choses à dire.
Mais oui, exactement. C'est ce voilà. qu'on voit depuis presque 30 minutes. On discute et ça a l'air à couler très bien. Je sais pas, vous avez pas... non, mais c'est ça. C'est quand même ça.
Moi... Ben, c'est le fond du problème. En réalité, faire de la radio pour parler, ça ne vaut pas le coup. Parce que, comme le disait Pierre Dac, pour ne rien dire et ne rien dire pour parler, ce sont les deux mamelles de ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir.
Ok.
Mais...
Non, mais c'est vrai.
Mais quand on a des choses à dire, et nous sommes quand même un certain nombre ici et là à avoir des choses à dire, il est toujours agréable de pouvoir, je dirais, les échanger avec d'autres.
Parce que, je sais pas, j'en connais beaucoup, moi, de mon côté, au niveau du Canada, qui font de la radio pour rien dire, absolument rien.
Oui,
Et c'est malheureux. Comme de votre côté, M. Reichmann, faut pas s'en cacher, les médias français en général, et je vous lance quand même le pot de fleurs avec les fleurs, la radio Courtoisie était, selon moi, et de ce que j'ai entendu, un des médias qui dénonçait vraiment les choses de ce qui se passe en France. Et si je prends par exemple, si je compare à Europe 1 ou encore RMC là, avec les grandes gueules, les pseudo grandes gueules, écoutez, c'est vide, c'est complètement vide, c'est une coquille.
Oui, c'est creux et c'est... vous savez, c'est toujours l'illusion qu'on essaye de donner de la liberté de ton, de la liberté d'esprit.
Oui, c'est
ça. Et ça s'arrête là où commencent les vrais problèmes. C'est-à-dire quand il s'agit de dénoncer, par exemple, le monopole de la sécurité sociale. Alors, je ne parle pas de RMC elle-même, qui m'a souvent interviewé, mais les grandes gueules, entre guillemets, n'ont jamais vraiment abordé le problème. Je me souviens d'une fois où... une des personnes qui y passe m'avait téléphoné pour se renseigner, pour essayer de dire quelque chose sur le sujet, elle ne l'a même pas abordé. Enfin, moi, personnellement, ça m'est indifférent, mais je veux dire que se dire grande gueule quand on n'a pas vraiment une grande gueule, c'est un petit peu ennuyeux, quoi.
Exactement.
En revanche, il faut quand même donner à RMC, le crédit qu'ils ont sur la sécurité sociale, par exemple, était un des rares médias avec le journal Le Parisien à donner des informations, et j'ai récemment été interviewé pendant... un quart d'heure par Jean-Jacques Bourdin, qui est le principal animateur de la radio, sur ce sujet. Et donc, moi, je n'ai pas de reproche à faire sur le plan purement informatif à RMC. Mais il est vrai que les radios françaises, quelles qu'elles soient, passent leur temps à ne pas donner les informations. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement gênant. Elles illustrent très bien le propos de Raymond Devos qui disait « Moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. » Voilà, ben, la radio française, c'est ça.
j'ai remarqué aussi que le code de déontologie entre journalistes, c'est pas grand-chose, hein, parce que je vous compte une petite anecdote, M. Reichmann.
Oui.
On a reçu Alain Soral ici sur les ondes du www.rocket.com. Et on a eu, avant tout le monde, une radio canadienne. Je trouve ça bizarre un peu, d'une certaine façon. Il est venu dire qu'il rejoignait, les rangs de Le Pen, le Front National.
Oui, c'est
exact. Et il a dit ça comme ça sur les ondes, tout bonnement.
Oui.
Et puis, RMC, eux, ont repris, si on veut, le scoop, sans mentionner d'où venait la nouvelle, à quelque part. J'ai trouvé ça extraordinaire.
Oui, la déontologie n'étouffe personne chez nous. Non, ça, c'est vrai. D'ailleurs, vous savez que même les droits de réponse dans la presse écrite ne fonctionnent pratiquement pas. Vous avez des journaux, la plupart... j'ai été attaqué vivement par Le Figaro et par Le Quotidien du Médecin à propos d'affaires de sécurité sociale, dans des termes alors particulièrement violents, parce qu'ils ont repris les accusations formulées à notre encontre par le ministre de la Santé sans apporter la moindre... différence, sans apporter, et sans, surtout sans nous donner la parole. Et figurez-vous que je leur ai évidemment donné un droit de réponse. Le droit de réponse est très strictement fixé par la loi. Ils se sont assis dessus. Alors je peux bien sûr leur faire un procès, je suis sûr de gagner. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut engager de l'argent pour ce genre de choses-là, et que de l'argent, ils en ont plus que moi. Donc, mais je les ridiculiserai par les faits qui sont en train de s'avérer. Et donc, ça ne me pose vraiment pas beaucoup de problèmes. Mais c'est pour vous dire que c'est quand même scandaleux que les journaux, quand ils mettent en cause des personnalités, quelles qu'elles soient d'ailleurs, d'abord ne leur donnent pas la parole, n'essayent même pas de les joindre. Et ensuite, lorsqu'elles disent des choses qui sont fausses, ne leur donnent même pas la parole pour le rectifier. Ça veut dire que la France n'est plus une démocratie.
Dites-moi, on vous offre du travail, M. Reichmann. Rocket.com veut vous offrir quelque chose. Est-ce qu'on peut en discuter? On ne fera pas ça.
Vous voulez m'offrir quoi? Beaucoup d'argent?
Oui, pourquoi pas?
Ah non, vous êtes sérieux? Vous voulez, que voulez-vous me proposer?
Ben, je sais pas, moi, peut-être une émission?
Ben, écoutez, avec plaisir, pourquoi pas?
J'aimerais ça, parce que vous êtes le maître, et moi, je suis l'élève, d'une certaine façon.
Ah ben, vous êtes trop modeste. Si vous êtes l'élève, vous êtes le meilleur élève, alors.
Oh, j'essaie de bien d'approfondir mes dossiers, mais quand même, vous seriez surpris à quel point je suis fort en improvisation.
Ah, ben, écoutez, ça, je vous entends de temps en temps, parce que les horaires ne sont pas toujours commodes pour moi, mais je sais que vous êtes un brillant improvisateur et que c'est un plaisir de vous écouter. Enfin, écoutez, très volontiers. Si vous souhaitez que je m'exprime sur vos ondes, je le ferai très volontiers dans le cadre d'une chronique ou de quelque chose. Enfin, c'est à vous de voir et de me dire ce que nous pouvons faire ensemble.
Je pourrais vous recontacter peut-être en fin de semaine, dimanche.
D'accord.
Quelque chose comme ça, histoire. J'ai votre numéro.
Oui, il n'y a pas de problème. Vous, pouvez me joindre quand vous voulez. Et puis, de toute façon, je suis ravi de parler sur une radio canadienne parce que j'ai vraiment beaucoup d'affection pour le Canada, pour beaucoup de raisons. La première tient bien sûr à ce que c'est une France des Amériques, comme on le dit traditionnellement, et parce que je suis très touché par l'attachement que les Canadiens français manifestent à leur langue et à ce qu'ils sont, et qu'on ne retrouve plus en France ce sentiment. On a vraiment le sentiment que les Français ont perdu la fierté de ce qu'ils sont, de leurs origines. Ça n'exclut pas l'ouverture, le fait d'être fier de ses origines, ça n'exclut pas d'être ouvert sur le monde entier, mais je crois qu'un peuple qui ne respecte plus ses racines est un peuple dont l'avenir est fort menacé. Et donc, et on sent au Canada, et j'ai eu beaucoup d'amis canadiens, encore cette fierté des origines, et c'est toujours très touchant. Puis c'est touchant également d'entendre votre accent qui est l'accent des Français d'antan. C'est
tout à fait
vraiment le français que vous parlez, c'est le français qu'on parlait en France il y a 3 siècles, et c'est extrêmement émouvant pour quelqu'un qui écrit et qui parle d'avoir ce témoignage à la fois du passé et du présent.
Monsieur Reichmann, moi ce que j'aime beaucoup, c'est surtout le fait que depuis que j'ai conçu avec des associés Rocky.com, c'est que j'espérais vraiment du fond du cœur de créer un sentiment d'appartenance, un sentiment patriotique que je trouve qui a disparu du côté français. Je trouve que le côté patriotique, et souvent on crache beaucoup sur le côté patriotique en France parce que ça fait penser aux Américains, ça fait penser justement à ce côté capitaliste que ça peut dégager, peut-être le Canada aussi dégage ceci. Vu du côté de l'Europe, je sais pas, mais Rocky.com, c'est une grosse équipe, Monsieur Reichmann, une équipe. Vous parlez dans le fond sur la planète Terre, ok? Tout le monde peut se parler, peu importe où est-ce que vous êtes situé dans le monde.
Exactement.
D'accord.
Exactement. Tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que, en effet, le contact que nous pouvons avoir de ce côté-ci de l'Atlantique et de l'autre nous permet d'abord de parler la même langue, ce qui est merveilleux.
Oui.
Et d'autre part, ça nous permet aussi d'essayer d'effacer un fossé qui, à mon avis, est complètement stupide entre l'Amérique et l'Europe. C'est-à-dire qu'on nous explique, certains, je ne suis pas de leur avis, bien sûr, nous expliquent qu'il y aurait 2 civilisations, la civilisation américaine n'aurait rien à voir avec la nôtre, mais la civilisation américaine, c'est l'Europe, ce n'est que l'Europe qui a évolué d'une certaine manière, et donc nous devrions avoir au contraire beaucoup de reconnaissance et d'amitié pour tous les peuples, qu'ils soient américains, canadiens ou autres. Ils sont issus de notre civilisation et eux ne l'ont pas renié. Ils ont gardé la foi dans les valeurs occidentales, même si nous, parfois, nous l'avons perdue, hélas. Et je pense que c'est très très bon qu'on puisse discuter alors évidemment, avec les Canadiens français, il n'y a pas l'obstacle de la langue. Bon, je parle l'anglais, mais je veux dire que c'est moins facile. Nous avons moins d'auditeurs avec les Américains et les Anglais. Ouais. Mais bon, il est quand même, je pense, très très précieux de pouvoir avoir ce dialogue. Et vraiment, je suis... Vous savez, j'avais été très marqué par le discours du général de Gaulle. Enfin, vive le Québec libre. Vous en souvenez, évidemment. C'est
ça, M. Reichmann, ce serait carrément une erreur là, de distraction, là, selon l'histoire de M. de Gaulle.
Non, ça n'était pas une erreur du tout. Il l'a fait intentionnellement. Mais figurez-vous que cette histoire qui m'avait quand même beaucoup surpris, curieusement, m'a permis d'apprendre l'espagnol.
Ah?
Je vais vous raconter pourquoi.
Allez-y.
Je me trouvais en Espagne à ce moment-là et je ne parlais pas du tout l'espagnol. J'avais fait de l'anglais, de l'allemand, du latin et du grec, mais pas l'espagnol. Et alors, il n'y avait pas de journaux français, ni anglais, ni allemand. Il n'y avait que des journaux espagnols. Je me trouvais, c'était assez loin dans le fond de l'Espagne. Et j'ai été tellement furieux de ne pas pouvoir lire un journal et apprendre ce qui s'était passé au Québec que j'ai décidé d'apprendre l'espagnol. Depuis, je le parle très bien. Donc, merci au général de Gaulle qui m'a permis d'apprendre l'espagnol en parlant des Français du Québec.
Monsieur Reichmann, on nous fait savoir via le live @rocky.com, les auditeurs nous parlent sur MSN et nous envoient, j'ai eu un beau petit courriel ici. Concernant l'actuel directeur de Radio Courtoisie via le Club de l'Horloge, il dit que Reichmann ment et qu'on ne peut échapper au monopole de la sécurité sociale étatique.
Oui, c'est effectivement ce personnage, M. de Lesquin, je vous signale qu'il est chargé de la sécurité sociale au ministère des Finances. Donc il a quelques raisons de vouloir prétendre. Mais en réalité, il ne dit ça que pour essayer de me discréditer.
Voilà.
Mais il n'a vraiment pas de chance parce que, d'abord, tout ceci est entièrement figure dans tous les textes officiels. Et en plus, la Poste, qui est une entreprise publique, qui a 300 000 salariés, vient de reconnaître qu'il n'y avait plus de monopole de la sécurité sociale. Alors, M. de Lesquin ferait mieux, avant de se ridiculiser, de vérifier ces informations. Et donc, le courriel que vous avez reçu est probablement soit quelqu'un de mal informé, soit quelqu'un de mal intentionné.
Oui,
ou alors peut-être les deux, même.
Possible.
Ouais, possible, mais... hein. On peut jamais savoir. Hein.
Non, tout à fait. Mais Monsieur Reichmann, est-ce qu'il serait possible, lorsqu'on croit que quelqu'un détient la vérité, qu'on s'attaque plus facilement et qu'on lui lance des coups bas, comme il...
Oui, bien sûr. Ben, c'est d'autant plus tentant que, finalement, quand on a ce combat, je l'ai mené très seul au début, puis ensuite j'ai été rejoint par beaucoup de monde, mais je l'ai mené finalement contre mes adversaires, mais même contre mes amis. Et c'est ça qui est tout à fait décevant, parce que vous avez des gens qui se disent libéraux, attachés à la fin des monopoles, et qui, par jalousie ou par je ne sais quel sentiment ridicule, on préférerait que le monopole qui est supprimé soit maintenu pour que j'ai tort. Donc, ils font passer leurs sentiments personnels et leurs sentiments négatifs à mon égard, qui est très surprenant d'ailleurs, parce que je ne leur ai, en ce qui les concerne, jamais manifesté de sentiments négatifs. Mais vous savez ce que c'est que la jalousie, bon, c'est un sentiment qu'il est difficile de réprimer, et donc beaucoup de gens prennent des positions qui n'ont pas de vertu doctrinale, mais qui sont destinées simplement à me nuire. Alors bon, je le prends comme ça vient, vous savez, ça ne me fait pas beaucoup d'effet, je note simplement que c'est dommage pour la cause que nous défendons, qu'elle n'ait pas trouvé plus d'alliés dans les rangs de ceux qui auraient dû être au premier rang du combat et qui, peut-être aussi, est-ce une des raisons, n'ayant pas mené ce combat, ont un peu honte d'eux-mêmes et au fond aimeraient bien que tout ce que j'ai réussi à gagner ne soit pas vrai, comme ça ça leur éviterait d'avoir à se juger eux-mêmes. Et moi, je n'ai pas l'intention de les juger. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, qu'ils se regardent dans la glace et puis ils verront. Ce qu'ils verront, eh bien, sera la vérité.
On nous demande aussi, Monsieur Reichmann, si vous avez encore, est-ce que vous avez encore un petit peu de temps?
Oui, si vous voulez.
Ah, d'accord. Ben oui, je le désire.
Alors, avec plaisir.
Alors, on nous demande, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur Lesquin? J'espère que je ne me trompe pas.
Lesquin. Henri de Lesquin. Ben, c'est un type qui a 57 ans. Qui est issu d'une famille de militaires, d'après ce que l'on m'a dit.
Okay.
Il est énarque et polytechnicien. Il a fait une carrière très peu brillante, parce qu'il est simple administrateur civil. Et vous savez que quand on est énarque et polytechnicien, on est au moins inspecteur des finances, conseiller à la Cour des comptes, ou magistrat, ou membre du Conseil d'État. C'est quand on sort dans la botte, comme on dit. Alors lui, manifestement, n'est pas sorti dans la botte, et il n'a jamais occupé de grands postes. Donc c'est déjà sur le plan professionnel quelqu'un qui n'a pas très très bien réussi, même s'il a fait de bonnes études, ça on ne peut pas le lui enlever. Sur le plan politique, il a monté ou pris une ou deux structures, comme précisément le Club de l'Horloge, qui se veut un cercle de pensée mais qui n'a pas vraiment de rayonnement. Il a pris également, par des méthodes qui rappellent un peu celles que Radio Courtoisie connaît en ce moment, un club qui s'appelait Renaissance 95 et qui était destiné à lutter contre les excès de l'immigration. Il l'a transformé dans la voix des Français et d'après l'avis de ceux qui en sont membres, il en a réduit l'assise assez considérablement. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un type qui semble ne pas vraiment réussir ce qu'il touche. Et donc, à partir du moment où il est quelque part, on peut être sûr que ça ne va pas marcher.
OK. Alors, dans le fond, cet individu-là, si je comprends bien, je vais le traduire en québécois, M. Reichmann, vous me demanderez si vous avez besoin que je vous explique, je vais le faire. Alors,
oui.
Par chez nous, on appelle ça un trou de cul, un sale enculé.
Ah, oui? Ah,
excusez-moi, mais on appelle ça comme ça. Un individu qui agit de cette façon-là, c'est
oui.
un serpent dans l'herbe, un snake in the grass.
Oui, exactement. Ça y ressemble beaucoup. Et c'est un personnage pour lequel je n'ai vraiment aucune considération, ni ça va de soi, aucune sympathie. Je le connaissais un petit peu avant. J'avais des relations, banal avec lui.
D'accord.
Et quand je l'ai vu agir, je me suis aperçu que ce type est complètement perturbé par les fonctions qu'il cherche absolument à occuper. Mais surtout, il oublie, ce qui est quand même capital, c'est que Radio Courtoisie a été, et n'est plus maintenant en raison de la situation, un média qui avait de l'importance en France et à l'étranger, et que nous avions, et nous avons toujours, une responsabilité vis-à-vis de tous ceux qui voulaient entendre des informations différentes sur la France et à partir de la France. Et maintenant, on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'une petite coterie qui d'ailleurs n'a aucun avenir, et on peut vraiment être inquiet sur l'avenir de Radio Courtoisie, parce que personnellement je pense que la situation risque fort de conduire à la disparition de ce média, ce qui serait évidemment un grand dommage, mais que voulez-vous, c'est la loi de la vie, et donc il y a un moment ou un autre, en fait tout découle du fait que Jean Ferret, après 19 ans de règne, n'a pas su s'assurer de la succession. Je lui en parlais souvent, Jean Ferret m'appelait presque tous les jours pour parler de politique et autre chose, et nous ne parlions presque jamais des émissions, en tout cas il ne me donnait jamais de conseils, et moi je ne lui en demandais pas non plus, sauf quand c'était nécessaire, et donc plusieurs fois nous avions abordé le sujet, et il me disait en plaisantant, mais vous savez, moi je ne suis pas inquiet pour l'avenir de la radio, je vais vivre 100 ans. Et alors je lui disais, mon cher Jean, je sais ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite à tous, mais la statistique ne parle pas pour vous. Et donc, bon, et finalement, il est arrivé, il y a 2-3 ans, il a commencé à être malade, et c'est toujours la même chose dans les successions. Quand on s'estime irremplaçable, je ne suis pas sûr même qu'il s'estimait irremplaçable, mais il ne voyait pas comment on pourrait faire sans lui, parce que lui ne voyait pas comment il pourrait faire sans la radio. Ouais, c'est assez complexe, mais en fait c'est très simple, c'est un réflexe tout à fait naturel. Et donc, il s'est trouvé rapidement dans la situation, il ne pouvait même plus réaliser l'idée qu'il fallait faire quelque chose. Alors les dernières années ont été pénibles parce que, d'abord, il n'a pris aucune mesure visant à assurer sa succession. Figurez-vous que l'association porteuse de Radio Courtoisie est une association qui a été créée en 1985 et qui, jusqu'à maintenant, n'a jamais connu d'assemblée générale. Rien ne s'est fait, c'est absolument ahurissant. Là, on a réussi, à l'occasion de cette crise, à démêler un certain nombre de faits que d'ailleurs, beaucoup d'entre eux n'étaient pas connus. Moi-même, je ne m'intéressais pas beaucoup à cela, parce que j'imaginais que Jean Ferret, qui était un homme quand même sérieux et responsable, je m'imaginais qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires, et je ne me souciais pas beaucoup de cela, pensant que c'était fait. Et j'ai découvert, au moment où la crise a commencé, ou surtout où Jean Ferret est tombé malade, j'ai découvert que nous étions dans une situation juridique catastrophique, et que l'ESCAN a profité de cette situation pour, par des manœuvres que nous allons très vite révéler, et notamment en justice, s'emparer de la direction de la radio et en faire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'esprit qui présidait à cette radio depuis 19 ans. Donc voilà à peu près la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés, et ce qui prouve qu'il est toujours très difficile d'assurer sa succession. Et le plus extraordinaire de l'affaire, c'est que Jean Ferret disait toujours « Je n'aurai réussi Radio Courtoisie que si j'assure ma succession ». Il a fait tous les efforts pour ne pas y parvenir. C'est extraordinaire, hein. Et c'est comme ça, c'est souvent... tous ceux qui connaissent un peu la vie savent que les cimetières sont peuplés de gens irremplaçables.
Monsieur Reichmann, on a même vos auditeurs là, qui nous envoient des courriels, là, nous disant je suis de tout cœur avec Monsieur Reichmann, et c'est une grande nouvelle et une belle surprise qu'il accepte d'animer une émission sur rocket.com. Attendez, là, on n'a même pas eu la chance de discuter encore un peu. Là, on s'arrache Monsieur Reichmann. Là.
Bon, c'est très gentil, je suis très flatté de ses appréciations. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y avait, et je reçois un courrier absolument monumental des auditeurs de Radio Courtoisie, auquel je ne peux même pas répondre tellement il est volumineux. J'essaye de leur répondre dans la mesure de mes moyens, mais vous savez, c'est par centaines que je reçois des lettres de gens qui me disent, qui me soutiennent, etc. Et donc, je suis évidemment très très sensible à cela et très très heureux de constater que ces années de fidélité sont reconnues comme telles.
Tout à fait.
Mais ainsi va la vie. Et je fais actuellement tous mes efforts pour que la radio redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Mais dans un combat comme celui-ci, on n'est jamais sûr de gagner, parce que les éléments sont tels que les mauvaises foi s'affrontent. Enfin, je ne parle pas de nous, parce que nous, on n'est pas de mauvaise foi. Je ne le dis pas pour parce qu'on serait meilleur que les autres, mais parce que ce que nous disons est vérifiable. On a, je n'affirme rien que je ne puisse prouver par des documents, etc. Et donc, mais il n'empêche que en face, vous avez des gens qui vous prêtent toujours de noires intentions ou qui s'imaginent qu'on a toujours voulu prendre leur place. Il y a même certains animateurs de la radio qui ont écœur, c'est vous dire à quel point ça devient tout à fait délirant. Il y a un animateur de la radio qui est un type pour qui je croyais avait de l'amitié pour moi, et moi en tout cas j'avais de l'amitié pour lui et je le lui montrais de diverses façons, a écrit un mail qui a été publié ensuite par M. Delesquin,
oui,
dans lequel il expliquait que finalement, à la différence de quelques autres, quand je suis arrivé à la radio, je n'étais rien, et grâce à la radio, je suis devenu quelqu'un. Ce qu'il a oublié simplement de dire que,
méchant,
quand je suis arrivé à la radio, j'avais déjà sauvé la médecine libérale française. Donc, excusez du peu, quoi.
Monsieur Reichmann, est-ce que vous croyez naïf?
Naïf? Non, je ne suis pas naïf. Non, mais je suis confiant.
Okay.
Et donc, vous savez, quand vous menez des combats, comme ça a été mon cas pendant 30 ans et davantage, si vous n'avez pas confiance dans les autres, vous ne pouvez rien faire. Donc je préfère prendre le risque d'être trahi ou de m'être trompé sur tel ou tel, plutôt que de soupçonner tout le monde.
Ok.
Donc ça me paraît plus prometteur d'agir comme ça. Et d'ailleurs, si j'ai pu gagner tous ces combats, c'est justement parce que j'ai agi ainsi. Alors ça suscite des fidélités extraordinaires.
Il y a
des gens qui, je ne dis pas, presque se feraient hacher menu pour notre cause. Et puis il y en a d'autres qui vous haïssent. Mais moi, je n'ai pas de haine. Je n'éprouve pas ce genre de sentiment. Je marche, je mène mon action. Et comme je l'amène pour les autres et non pas pour moi, donc je suis tout à fait tranquille.
Monsieur Reichmann, on a un animateur ici, un grand animateur nommé André Arthur, qui est un des plus controversés au Canada, a dit ceci au niveau du monde des communications. Si vous voulez avoir un ami au niveau de la radio, au niveau de la télévision, achetez-vous un chien et appelez-le copain. Est-ce que vous êtes d'accord?
Copain? Attendez, je comprends pas très bien.
Expliquez-moi
mieux.
Je recommence, il n'y a pas de problème. Il a dit cette maxime. Un jour, je me demandais si je devais me faire des amis dans le monde des médias.
J'ai compris. Bon. Achetez-vous un chien, voilà. Vous ne serez pas déçu. Voilà. Ben écoutez, est-ce que vous connaissez, c'est vraiment l'occasion de vous placer l'histoire, est-ce que vous connaissez ce que qui était arrivé à Félix Leclerc quand il était venu au début en France?
Non, allez-y, contez-moi.
Je vais vous le raconter parce que c'est une histoire vraiment extraordinaire.
Ok.
Félix Leclerc arrive en France et a un très très grand succès, c'était merveilleux. Il se produisait dans un music hall de Paris qui s'appelait l'ABC, qui se situait sur les grands boulevards, et il raconte que dans les coulisses, les comédiens, les chanteurs attendaient en discutant de passer à leur tour, et parfois ils en croisaient un, et les uns et les autres se faisaient des grandes joies, s'embrassaient, etc. Et dès que le type avait le dos tourné, les autres disaient « Ah, celui-là, quel con !» Alors, Félix Leclerc était un peu surpris de ce manège, et donc avise un autre artiste qui passait dans le même spectacle, et par malchance pour lui, il tombe sur Francis Blanche, qui était un comédien, un humoriste et un farceur de tout premier ordre, et il lui dit « Dis-moi, Francis, c'est quoi un con ?» Alors Francis Blanche lui dit « Ah, c'est un type très bien, tu vois. » Alors, peu de temps après, Félix Leclerc est invité à l'ambassade du Canada, et ne sachant pas trop bien quelle contenance prendre, il passe par la loge des concierges en disant « Ben voilà, je suis invité, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors les concierges lui expliquent très gentiment qu'il va être introduit, qu'on le présentera, qu'il serrera la main de l'ambassadeur, qu'il prendra un verre, etc. Alors en sortant de la réception, il se dit « Il faut quand même que j'aille remercier ces concierges qui
ne
vont pas être... »
Non.
Comment ?
Oh non, c'est pas vrai, il va pas faire ça.
Si, et alors ils m'ont dit « Écoutez, je vous remercie, vous êtes vraiment deux braves cons. »
Oh, c'est
et tout
bon.
Ça grâce à Francis Blanche, vous voyez. Et l'histoire est authentique, hein. C'est Leclerc qui l'a raconté lui-même.
Hein. Oh merde, non. Incroyable.
Enfin, personne ne lui en a voulu.
Non, j'espère bien. C'est
pour ça, parce que quand votre animateur, Arthur, dites-vous, il s'appelle
André Arthur.
Arthur.
Oui.
Eh bien, quand il dit « prenez un chien », oui, s'il considère qu'un animateur qu'un comédien ou qu'un journaliste est forcément quelqu'un qui lui fera des saloperies, bon, effectivement, il vaut mieux compter sur son chien. Mais d'un autre, mais d'un autre côté, il y a quand même des relations qu'on ne peut pas avoir avec un chien. Je veux dire, discuter avec un chien,
non, c'est sympathique.
Non, il remue la queue et il vient vous lécher la main. Mais au fond, il y a quand même des gens qui ont des comportements un tout petit peu plus variés. Donc, moi, personnellement, j'ai eu un grand ami des chiens. J'ai eu beaucoup de chiens dans ma vie et j'adore les chiens, tous les chiens d'ailleurs.
Monsieur Reichmann.
Mais j'ai aussi des amis, vous savez.
Oui, je l'espère. Je l'espère. Moi, au niveau du monde des communications, ça, je me suis toujours dit que peut-être il y avait encore des gens de bonne volonté à travers les médias en général. Mais des fois, on s'aperçoit que, hop, quand ils veulent un scoop ou lorsqu'ils veulent la nouvelle.
Vous avez raison, mais d'un autre côté, dans la bataille très difficile que je mène pour l'abrogation du monopole, qui est un fait maintenant, c'est déjà inscrit dans les lois françaises, mais surtout pour le faire savoir aux Français, j'ai quand même quelques amis journalistes très fidèles qui m'ont beaucoup soutenu et qui ont beaucoup fait pour que cette nouvelle se répande, au détriment parfois même de leur tranquillité, parce qu'ils n'étaient pas toujours suivis par leur rédaction, mais vous savez, quand on a ces fidélités-là, ces amitiés, ces gens qui ne le font, ils ne le font pas pour moi, ils le font pour l'idée qu'ils partagent et pour la vérité, on se dit que finalement tout n'est pas aussi moche qu'on pouvait le penser, qu'il faut quand même être confiant et le bonheur ne passe quand même pas par le mépris des autres. Le bonheur, c'est quand même l'amour, l'amitié, la beauté. Et bon, on sait très bien que vous m'avez demandé tout à l'heure si j'étais naïf. Bon, je ne le suis évidemment pas, mais je préfère ne pas voir ce qui est moche, j'aime mieux voir ce qui est beau.
Je comprends ce que vous voulez dire, mais je suis du type très très terre à terre, hyper réaliste. Je n'ai pas envie de vivre dans un monde où est-ce qu'on porte des lunettes roses, Monsieur Reichmann.
Non, vous avez raison. Vous avez raison, mais là, il ne s'agit pas de lunettes roses, il s'agit simplement d'essayer de voir ce qu'il y a de bon chez certains, chez la même personne, chez nous-mêmes d'ailleurs, chez chacun d'entre nous. Il y a souvent des sentiments mélangés. Il y a parfois on agit d'une manière qui est honorable, parfois même admirable, et puis parfois on fait des bêtises ou des conneries, ou parfois même pour certains des saloperies. Et donc celui qui vous a fait une saloperie n'est peut-être pas forcément un salaud absolu. Maintenant, s'il y en a, là, il faut pas les rater. Hein. comme le disait je ne sais plus qui, méfiez-vous des ratés, ils ne vous rateront pas. Hein.
Tout à fait. Monsieur Reichmann, je vous recontacte en fin de semaine et j'espère aura l'occasion de rediscuter ensemble. C'était fort intéressant.
Merci à vous. Bon courage et à bientôt.
Merci, Monsieur Reichmann. Au revoir.
Au revoir.
Alors, vous venez tout juste d'entendre Claude Reichmann, ex-animateur de Radio Courtoisie et avec un bon bagage aussi au niveau de ce que vous savez, de ce qu'on a su entendre. Hey, wow, 50 minutes, j'en ferai toujours comme ça, 40 minutes de plaisir dans les oreilles du www.rockey.com, dans vos oreilles. Vous m'avez demandé de lui parler, je l'ai fait. Voilà, Claude Reichmann, on ne sait pas, peut-être aura une chronique, que ce soit quotidienne, je sais pas, on verra, on va regarder le plan de match en fin de semaine, je l'appelle dimanche. Je vous tiens au courant, les auditeurs, vous le méritez, parce que vous êtes présents jour après jour, du lundi au vendredi, de 8h à midi, de 14h à 18h. Wake up le show avec votre punisseur. Merci du fond du cœur d'être là, et je veux vous faire plaisir, faites-moi plaisir, bottez des culs, c'est comme ça que ça fonctionne. Christian s'en vient avec Hard Sport, dès 13h, 19h pour vous les Français qui aiment le sport, qui veulent entendre parler de sport. Hey, c'est le temps, écoutez-le, live@rockick.com, live@rockick.com.